France Inter.
Kolinka est souvent présentée comme une rescapée des camps de la mort, et ce qui frappe quand on s'intéresse à elle, c'est qu'elle est la vie même. Survivante d'Auschwitz et passeuse de mémoire de la Shoah, l'ancienne déportée arrêtée en 1944 avec une partie de sa famille garde en toutes circonstances un humour décapant. Ayant exercé des décennies le métier de commerçante et n'ayant voulu embêter personne avec son histoire, elle est maintenant intervenante en milieu scolaire et couverte de titres honorifiques remis par l'État. Ginette Kolinka a mis du temps à parler puis s'est rendu compte de l'importance de témoigner. Surtout que ses camarades Simone Veil et Marceline Loridan-Ivance ne sont plus là pour le faire. Heureusement, il y aura toujours les livres. Notre invitée s'est racontée à Marion Ruggieri dans Retour à Birkenau et Une vie heureuse, au journaliste Victor Mattei et à Jean-David Morvan dans la bande dessinée Adieu Birkenau, illustrée par Ricard Effa et Roger Suroka, à Aurore Donde pour Récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau, et ces dernières années, à la dessinatrice Katel Müller et ses filles sur des vidéos qui sont devenues un livre d'entretien illustré par Katel Müller, Ginette Kolinka, Contre la haine, paru aux éditions de La Sirène. Je suis dans une chambre de l'institution des Invalides, lieu voulu par Louis XIV pour recueillir les blessés de guerre, face à une femme radieuse de 101 ans, sur son 31. J'aperçois un très joli flacon sur sa table de nuit, une petite bouteille de vodka, c'est bien Ginette Kolinka. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Ginette Kolinka.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée?
Vous savez, je pense que maintenant, tout ce qui est sentiment comme ça, je ne sais plus ce que c'est. Alors, je ne suis ni angoissée, ni triste, ni enthousiaste. Les choses arrivent, ben elles arrivent, c'est comme ça.
Il n'y a rien qui vous procure de la joie ou de la tristesse?
Si le matin je me réveille, ça prouve déjà que je suis en vie. Alors c'est normalement ça serait une joie. Mais je vous dis, je m'interroge pas comme ça. La vie, ça décide. Ce qui arrive, c'est décidé pour moi. Moi, je suis pour rien. C'est pas moi qui dis, je vais recevoir ces personnes-là. Vous venez, vous seriez pas venu, ben c'était pareil. J'aurais pas pleuré non plus. Hein. Je suis contente d'être avec vous. Je n'ai pas encore répondu à vos questions. On va voir ce que vous allez me poser, si elles ne sont pas trop méchantes.
Elles sont très gentilles.
Mais de toute façon, on ne peut pas répondre à tout. Hein.
Non, vous répondez à ce que vous voulez.
Mais je suis assez bavarde.
Mais ce qui ressort, c'est aussi que vous êtes très drôle. Vous faites tout le temps des blagues. Est-ce que vous vous amusez, vous, ou jamais?
Je m'amuse, mais je suis toujours gaie, moi. Justement. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas gay. Vous vous rendez compte que j'ai survécu à Birkenau. C'est extraordinaire. Alors, je vais me plaindre de quoi? Je suis partie de ma maison, c'est exact. Mais je suis dans un endroit qui est très bien. J'aurais pu rester dans le camp et ma maison, de toute façon, je ne la voyais plus. Hein. Non, moi, j'ai tout pour être heureuse ici et je le suis.
Mais vous auriez pu perdre foi en l'humanité totalement.
Je n'ai jamais confondu l'humanité avec ce que j'ai vécu. On a eu affaire à des salauds qui étaient antisémites, mais l'humanité entière n'est pas comme ça. Hein. Et puis, autour de moi, tout le monde est heureux. Peut-être que c'est parce qu'on ne demande pas la lune. On se contente de ce qu'on a.
Oui, c'est de la sagesse.
Je sais, moi, il me semble, si c'est sûr, il est dit que pour arriver dans la vie, il faut avoir de l'ambition. Ça m'amuse parce que quand je dis, moi, j'ai fait toute ma vie le trottoir, c'est une façon de parler, je faisais les marchés. Mais j'ai jamais pensé, je devrais m'acheter, on devrait avoir un magasin. Ben non, on n'avait pas les moyens d'acheter un magasin, on s'est contenté d'être toute notre vie sur le marché avec mon mari. Et on a été heureux comme ça.
la notion qui revient souvent dans toutes vos interviews, c'est la chance. Vous dites que vous avez eu de la chance.
Oui, ben oui, exactement. C'est la chance. Moi, j'ai rien fait pour survivre. J'ai plein de camarades autour de moi qui sont morts. Pourquoi moi? C'est toujours la question que je dis. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Vous êtes là. Ici, il y en a d'autres dans mon cas. Pourquoi moi? Eh ben, il n'y a pas de réponse. Le hasard.
Le hasard et le fait que vous n'ayez pas eu peur, que vous étiez persuadé de rester en vie et que vous ayez troqué des suppléments contre des épluchures de pommes de terre.
Je vais vous décevoir. Je n'ai jamais pensé que je restais en vie. Je n'ai jamais pensé que j'allais mourir. En fin de compte, j'étais un robot. J'ai trouvé ce mot-là très bien parce que un jour j'ai vu un robot qui était dans une vitrine, il se débrouillait tout seul. Il était commandé par je sais pas qui. Et ben voilà, moi on me commandait, tu fais ci, je faisais ça. Je le faisais parce que si j'avais refusé, c'était les coups. Alors je préférais faire que de recevoir des coups. Et après ça a été pareil. Après, comment je suis venue à faire les marchés? Eh ben, parce que mes sœurs le faisaient avant. Et puis, quand les déportés sont arrivés, ils avaient des priorités. Et il s'est trouvé que j'ai fait les marchés.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'endroit où on se trouve? Parce qu'on est aux Invalides.
Ah, ben oui. Alors là, c'est pareil. Pourquoi que je tombe malade? Mon fils a mis qui était ancien professeur dans un hôpital. Il lui explique ce que j'ai. Maman peut plus marcher. Elle a mal nulle part, mais elle peut plus marcher. Elle tient pas debout. Eh ben, amène-la-moi. Et du coup, je suis restée 22 jours, je crois, à la Riboisière. Alors après, on m'a parlé de staphylocoque doré.
Ah oui.
C'est un microbe qui rentre dans votre corps, mais à ne plus pouvoir bouger. C'est fou, ce truc-là. Mais à l'hôpital, on ne peut pas vous garder éternellement. Alors, où est-ce qu'on va vous mettre? Les Invalides. Les Invalides, je savais, un camarade de déportation, on était venu le voir aux Invalides, et il avait l'air d'être tellement bien que j'ai... Et après, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, mais idiote, ton mari, il est mort ici, aux Invalides, parce qu'il s'était fait soigner ici.
Il a été prisonnier de guerre pendant 5 ans.
Comme il était prisonnier de guerre, il a eu le droit d'aller se faire soigner ici.
Vous venez de recevoir une médaille.
Ah oui, ben ça, des médailles,
médaille
je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes.
Hein. Ah oui, elle est
alors
impressionnante.
J'ai été nommée commandeur. Et il paraît que il n'y a rien au-dessus de commandeur. Et puis il y en a qui vont ici, il y a aussi officier, mais enfin commandeur c'est déjà pas mal.
Ah oui.
En plus elle est superbe la médaille.
Elle est magnifique, c'est vrai.
Elle est très très bien.
Blanche et verte.
Alors
et or.
Qui est-ce qui l'a payé? J'en sais rien. Alors j'ai reçu un papier de la présidence de la que c'était le président et qui m'avait remis ce titre de commandeur. Alors, c'est peut-être lui qui a payé. Si c'est lui, c'est vous.
Je suis ravie d'avoir participé.
C'est vraiment pas des choses qui me... J'ai honte.
Ah bon?
Ouais. Ici, vous avez des blessés de guerre, vous avez des... Et ils ont une petite médaille de la Croix de guerre. Et ils sont tout émus de porter leur médaille de Croix de guerre, alors que moi, la croix de guerre, la croix de ci, la croix de ça, c'est pas mérité. Je suis pas une héroïne, je suis une victime qui a eu de la chance.
Vous avez 101 ans, comment évolue votre mémoire concernant ce que vous avez subi il y a plus de 80 ans?
La mémoire, vous savez, on en a tous. Il suffit de fouiller un peu dans sa tête et puis on retrouve tout. Mais la toute première fois... C'était après le film de... Comment qu'il s'appelle ? La liste de Schindler.
Steven Spielberg.
C'était Spielberg. Et Spielberg avait envoyé chez les déportés survivants qui voulaient parler, naturellement, des jeunes cinéastes. J'ai des jeunes, des cinéastes. Moi, dans ma petite tête, c'était des jeunes. Pour faire un cinéaste perdre son temps à aller de porte en porte comme ça. Et on me téléphone, il me raconte l'histoire de Spielberg. Mais je n'ai rien à dire. C'est une histoire qui est trop vieille. Moi, je me rappelle plus. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie de me rappeler. Je suis rentrée, tant mieux, je suis en vie, tant mieux. Alors maintenant, la déportation, on n'en parle pas. Il insiste, il m'énervait. Bon, si vous avez du temps à perdre, vous venez. Mais j'ai rien à dire. Comment qu'il s'est débrouillé? Alors, il m'enregistre, il l'envoie à Spielberg en Amérique, et on reçoit la cassette. 3 heures, quelqu'un qui avait rien à dire. La cassette, elle dure 3 heures. Mais qu'est-ce que j'ai dit pendant 3 heures? Je n'en sais rien, même pas. J'aimerais bien la retrouver, mais elle est mélangée dans toutes les cassettes, aussi bien le groupe téléphone que n'importe quoi. La cassette de Spielberg, elle est là-dedans.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Ginette Kolinka, votre histoire, vous la connaissez par cœur, mais pas tous les auditeurs. Alors, vous êtes née à Paris le 4 février 1925, dans une famille juive athée, et votre père était persuadé qu'il ne vous arriverait rien parce qu'il était français, il était très fier d'être français. Et d'ailleurs, vous dites que dans votre famille, on n'avait pas d'accent étranger, on avait un accent parigot.
Bah non, tout le monde est né à Paris, il y avait un accent marseillais, parce que j'ai des beaux-frères qui étaient de Marseille. Mais sinon, tout le monde... Il n'y a absolument aucun accent. Personne de chez nous pratique la religion.
Vous dites que pour vous, être juif, c'est simplement se lever quand quelqu'un tient des propos antisémites, mais que vous êtes française, athée, un point c'est tout. Quand vous avez dû porter l'étoile jaune, ça ne vous a pas gêné?
Pas du tout. Je suis juive, il faut le montrer, ben je le montre. Ça a été gênant pour faire certaines activités. Mais j'avoue franchement qu'il n'y avait pas de raison que moi je ne le fasse pas, alors que les copines les faisaient, et sans le dire à la maison, eh ben j'allais quand même. On n'avait pas le droit de faire de sport, on n'avait pas le droit d'aller sur un stade, donc pas de piscine, pas de cinéma, pas ci, pas ça. On avait le droit de rien faire. En distraction, je parle. Hein. Le travail, c'était plus grave. Mais comme je suis jeune, moi, je pense qu'aux distractions. Et les distractions, eh ben, je les ai quand même pratiquées parce que je disais rien à mes parents. Et avec ma sœur Jacqueline aussi, on était toutes les deux. Eh bien, on était avec une bande de copains et on faisait comme si ça aurait pu être très, très grave. On a été déporté qu'en 44, mais on aurait pu être déporté en 41, 42, et toute la famille en plus. Hein. Je pouvais entraîner toute la famille, mais on se rend pas compte. On pense que ça arrive aux autres et pas à soi.
Et quand vous arrivez à entrer au Racing Club de France, qui est un club de sport chic, en jurant que vous n'êtes pas juive, ça vous pose pas de problème? Vous vous dites pas, ah quand même c'est un peu dégoûtant de devoir prouver ça.
J'étais fière, hein. Vous vous rendez compte, Ginette au Racing Club. Oh, quelle fierté! Qu'est-ce que j'étais fière, oui, alors d'être au Racing Club. Et ça aurait pu me coûter cher parce que, alors qu'on a déchiré tous les papiers d'identité avec notre vrai nom, eh ben moi j'ai gardé la carte du Racing Club. Je pouvais pas la déchirer, c'était pas possible. Elle avait trop de valeur pour moi.
Au début du confinement, Ginette m'a laissé un message sur mon téléphone portable. Et le message n'était que joie de vivre. C'est-à-dire qu'elle était dans un square au soleil, il y avait des pigeons qui se bécotaient. Elle m'a raconté la scène pendant 3 minutes. J'ai éteint, je me suis dit, je vais garder ce message. Et en fait, je ne garde que 2 types de messages sur mon téléphone. Les messages de mon fils enfant, avec sa voix d'enfant. Et les messages de Ginette comme des trésors que je peux consulter de temps à autre, des trésors de vitalité, voilà. Et c'était ça, un petit peu, que je voulais transmettre, un message qui fait du bien.
Marion Ruggieri, à votre sujet, Ginette Kolinka, dans C'est à vous sur France 5 en 2023. Vous avez coécrit avec elle plusieurs livres, dont Retour à Birkenau. Vous avez aussi fait des bandes dessinées pour vulgariser cette histoire, bien que vous ayez étiez... Non, pas avec elle, avec Victor Matet, mais vous étiez contre le fait de faire une bande dessinée.
Naturellement.
Début.
Moi, je, pour moi, dans la bande dessinée, c'était ce que je lisais quand j'étais gamine, et c'était plutôt ridicule. Bibi Fricotin, il y avait Popeye, c'est ça?
Oui. Hein?
Alors avec sa femme, Olive, qui avait des petites jambes comme ça, mais c'est honteux de faire des bandes dessinées avec un sujet pareil où il y a tellement eu de morts. Ah oui, j'étais vraiment contre. Et puis après, j'ai eu l'explication que il y a des personnes qui ne lisent jamais. Et les bandes dessinées, ce sont des images, mais des images qui parlent. Et en fin de compte, merci à ceux qui ont fait les bandes dessinées. Parce que maintenant, les gens ne peuvent pas dire « Ah ben, j'étais pas au courant ». S'ils aiment pas lire, ils lisent pas les journaux, ils regardent pas la télé, eh bien, il y a les bandes dessinées qui parlent.
Alors justement, on écoute tout de suite Katell Müller sur Ici, en février 2026, qui parle du projet qui fait que j'ai la joie de vous rencontrer aujourd'hui.
Là, je dessine le message de Ginette Kolinka, c'est-à-dire son combat contre la haine. Et je dessine une colombe de la paix, voilà, qui vole au-dessus des barbelés, au-dessus des fours crématoires. Les mots sont un poids, certes, mais ça ne suffit pas pour elle. Il fallait le choc du visuel, le choc des images. Et comme on n'a pas de photos, il ne pouvait rester que des dessins, et des dessins à partir de ce que les survivants nous racontent. Donc moi, j'ai à la fois écouté beaucoup son récit, mais j'ai aussi regardé les dessins des déportés qu'ils avaient fait soit sur place ou au retour des camps pour essayer de voir graphiquement comment je pourrais trouver un équilibre justement entre ces choses très violentes à montrer et puis quelque chose de graphiquement fort, simple, noir et blanc. Et j'en suis arrivée à ce type de représentation qui lui ont beaucoup plu.
Katell Müller a illustré votre livre d'entretien, Ginette Kolinka, Contre la haine, paru aux éditions de La Sirène. Au départ, vous lui aviez demandé d'illustrer votre histoire et elle ne se sentait pas à la hauteur. Mais ses dessins vous ont beaucoup plu.
C'est-à-dire que pour moi, elle était dessinatrice, mais pas non plus auteur. Et en fin de compte, les dessins, il y a les commentaires à côté. Bravo, hein.
Et des repères historiques, chronologiques à la fin, des fiches sur vos compagnons aussi, comme Simone Veil, Marceline Loridan à la fin, c'est très très didactique. Est-ce que vous reconnaissez sur les images ce que vous avez connu? Parce que j'ai lu que quand vous étiez retourné pour la première fois à Birkenau, vous trouviez que c'était un décor en carton-pâte.
Je suis outrée. Les gens qui vont à Birkenau sans guide, et s'ils ont la chance d'avoir un survivant ou une survivante, c'est beaucoup, 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 beaucoup mieux. Parce que les guides polonaises s'arrangent, c'est parce qu'on est polonais, c'est les Polonais qui ont souffert. Mais non, c'est les Juifs polonais qui ont souffert. Parce que Hitler, les nazis, avaient rassemblé tous les habitants juifs de Pologne, ils avaient dans un ghetto, si vous voulez. Donc c'était facile pour lui, dans ces ghettos, ils n'avaient aucune liberté. Et nous, en France, cela n'a pas été pareil. Hein. On a eu à porter l'étoile, je l'ai portée, mais malgré tout, il y en a beaucoup qui ont été arrêtés parce que, justement, ils n'étaient pas en règle. Hein.
Vous n'avez jamais eu d'inquiétude pour rien?
Non, non, parce que j'étais tellement française et peu juive que je réalisais pas qu'on était marqué. Alors, même quand on a eu l'étoile, ça ne m'a vraiment pas gênée du tout. Hein.
Quand les nazis sont arrivés en 1944, vous aviez 19 ans, vous avez été arrêté avec votre père, votre frère et votre neveu après une dénonciation anonyme, et vous avez d'abord juré que vous n'étiez pas juif, et puis ils ont fait se déculotter les hommes, et vous avez été embarqué. Vous êtes passé par Avignon, les Baumettes, Drancy, toujours sans avoir peur. C'est à Drancy que vous avez rencontré Marceline Loridan. Un peu plus tard, à Auschwitz, Simone Veil. Et en arrivant au camp, il y a une histoire que vous racontez souvent. C'est la mort de votre père et de votre frère.
C'est affreux, ça. Affreux, parce que moi, j'entends quand on descend du train que les personnes, on n'est pas dans le camp, le camp est plus loin, il va falloir marcher. Alors, les personnes qui sont fatiguées, les personnes âgées, les femmes enceintes, toutes celles qui n'aiment pas marcher, il y a des camions. Moi, je hurle à papa et à mon petit frère, parce qu'on a quand même voyagé dans mauvaises conditions. « Papa, Gilbert, prenez le camion, on se verra tout à l'heure, vous ne serez pas fatigués. » Et puis, ils m'ont écouté, ils ont pris... Je ne les ai pas retrouvés, je ne les ai jamais revus. J'ai l'impression que je les ai envoyés à la mort. Mais en réalité, non. De toute façon, les nazis avaient une façon... les juifs, on en veut s'ils peuvent travailler... Et s'ils peuvent travailler, c'est qu'ils ont entre 15 ans et 45 ans. Et c'est terrible parce que quand je vais dans les établissements scolaires, c'est les troisièmes, ils ont 14-15 ans. Je dis, levez-vous tous ceux qui ont moins de 15 ans. Et à chaque fois, ça me fait un choc. Toute la classe, presque, se lève. Et je leur dis, eh ben, voyez, vous seriez juive, vous seriez à l'époque de Hitler, vous n'existeriez plus. On vous aurait tué. Et tué comment? Dans les chambres à gaz. Là, ça leur fait un choc. Et à moi-même aussi, parce que je vois des gaillards, des filles, des belles petites jeunes filles qui se lèvent. Et je dis, Dieu qui les a tués.
Vous prenez la parole, vous êtes une passeuse de mémoire et vous espérez que les jeunes plus tard se souviendront. J'aimerais lire cette citation de Simone Veil qui est issue d'un discours qu'elle a prononcé en 2002. « Bientôt s'éteindra complètement cette génération qui ne devait pas survivre. Le temps viendra aussi où ceux qui nous ont interrogés de vive voix disparaîtront à leur tour. Les livres seront alors les seuls dépositaires de nos mémoires. » Pour vous, Ginette Kolinka, la transmission, c'est très important jusqu'à votre dernier souffle. Vous témoignerez ?
C'est vrai. Quand ma génération, et le fait est, je suis déjà très vieille, hein, mais il y en a encore quelques-unes comme moi, mais d'ici 2-3 ans, il n'y en aura plus. Alors, il y a tous les élèves, il y a les professeurs, il y a les élèves qui nous ont écoutés. Je ne parle pas de la famille. La famille, c'est très rare quand des déportés ont raconté à leur famille. Ils l'ont su en travers l'école, les livres, les choses. Mais qu'un déporté raconte son histoire à quelqu'un de sa famille, je ne crois pas qu'il y en avait beaucoup qui l'ont fait. Ou alors ceux qui l'ont fait, ils l'ont tellement fait souvent que leur famille en avait marre de les entendre. Parce que c'est ça qui m'a arrêté, moi. J'avais un beau-frère qui racontait à tous les repas de famille, ça se terminait par ces histoires de régiment, et tout le monde levait la partie. Et ça m'a tellement marqué, moi, je reviens, je dirai rien. Et en plus, je dirai rien parce que je sais pas comment ils sont morts, à part mon père et mon petit frère. Et je vais dire que ils sont morts sous les coups, et ils sont morts parce que c'est la capot qui les a battus et qu'elle les a laissés mortes. Mais je sais pas, du froid, de chaud, alors j'en parle pas.
Vous dites qu'il y avait une caricature du juif sur un cinéma à Paris à l'époque qui vous choquait un peu. Oui, vous en souvenez?
Ah oui, ah bah oui, bah naturellement. C'était le juif. Quel nom?
Sus.
C'est ça, quelque chose comme ça. Et le Paramount, ça fait un immeuble. Et comme un immeuble de 3 étages, il y avait le visage d'un juif avec un nez crochu, comme la caricature du juif, qui, en fin de compte, est complètement ridicule.
Mais c'est ce que vous vous êtes dit dans les trains.
Et quand j'ai pris l'autobus qui nous emmenait à la gare, hein, moi, juive, j'ai dit, mais... ils n'ont pas le type juif. Et vous voyez l'influence d'entendre les choses. Je suis juive moi-même. Et est-ce que j'ai le type juif? J'en sais rien. Mais en attendant, je regardais les autres et elles n'ont pas le type juif. On se laisse, ça prouve qu'on se laisse influencer. C'est ça qui est triste.
Vous ne vous êtes jamais dit, j'aurais préféré ne pas naître juive?
Oh non. Non, c'est... Si, par exemple, on me demande de choisir, et je choisis ma religion, je choisis juive. Ah ben mince, si j'avais su, j'aurais pas choisi cette religion. Mais je n'ai pas choisi. Je suis même pas religieuse. Mais je suis juive, et juif, on l'est tout le temps.
Ce qu'on apprend aussi dans ce livre qui vient de paraître, c'est qu'au camp de Birkenau, tout a été construit par les déportés. Et les rails, c'est vous qui les avez posés.
Les déportés de Auschwitz. Parce que à Auschwitz, il y avait des déportés résistants, non juifs. Des résistants juifs qui avaient été arrêtés parce qu'ils étaient résistants, ils n'étaient pas à Auschwitz. Ils étaient à Birkenau, le camp des juifs. À Birkenau, il n'y a que des juifs. Sauf, il y a eu une erreur. On les appelle les 31 000. On a mis des déportés politiques dans le camp de Birkenau. Et ça, je trouve que c'est bien. Comment qu'elle s'appelle? C'est Charlotte Delbault. Eh bien, elle raconte qu'elle ne s'est jamais lavée pendant qu'elle était à Birkenau, et que quand elle est arrivée à Ravensbrück, où elle aurait dû aller, eh bien, elle était tellement sale que ses ongles collaient après ses bas. Elle a de la chance d'avoir eu des bas déjà, elle. Hein. Et j'étais contente d'avoir un détail comme ça, parce que l'antisémitisme, il est toujours là. Et que ça soit un juif qui raconte tout ce qu'il a vécu, oh ben, les juifs, ils pleurent toujours, ils sont toujours les plus malheureux du monde. Et, tandis que quand ces femmes racontent ce qu'elles ont vécu, bravo, tant mieux qu'il y a eu cette erreur.
Parce que vous aussi, vous ne vous laviez pas à Birkenau.
Non, on ne pouvait pas se laver, il n'y avait pas d'eau. Une fois, je vais avec des élèves à Birkenau, on passe dans une baraque et il y avait une espèce de bassin qui traversait la salle. Et puis, au-dessus de ce bassin, il y avait un tuyau qui était percé et il y avait des espèces de petits tuyaux qui sortaient de ce gros tuyau. Et moi, j'avais jamais vu ça. Et quand je suis revenue, je tombe sur des camarades et alors vous connaissiez vous qu'il y avait un endroit où on pouvait se laver? Ah ben oui, ben moi j'ai jamais vu. Ah si, nous on le savait. Alors on y allait la nuit. Ah ben oui, moi la nuit déjà j'étais trop fatiguée, je dormais et ensuite on n'avait pas le droit de sortir des baraques. Donc c'était très 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 dangereux de se faire prendre. Alors non, moi je me suis jamais lavé. Alors par contre, il y avait souvent des contrôles. Est-ce qu'on avait la gale ou est-ce qu'on avait des maladies contagieuses, des maladies de peau, ce que je sais. Et alors là, on nous déshabillait et on prenait nos vêtements et on les passait à l'étuve. Et on lui retrouvait nos vêtements, eh bien, au moins les vêtements avaient été, non pas lavés, mais désinfectés. Mais nous, alors nous, on nous passait un produit, à un moment donné, anti-gale. C'était une espèce d'éponge ou un tampon de tissu, je ne me rappelle pas. En tous les cas, il nous passait sur tout le corps ce tampon, eh bien, ça nous a lavé un peu, peut-être.
C'est dans un autre camp que vous avez contracté le typhus?
Ah ben ça, c'est le typhus. Moi, je l'ai eu tout à fait à la fin. Quand on est libéré, les nazis nous ont entraînés jusqu'à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. Et là, j'apprends que la guerre est finie. Mais je suis dans un tel état que j'ai fini la guerre dans un hôpital. Qui m'a soigné, comment qu'on a été soigné, je ne sais pas non plus. Et puis, il y avait dans cet hôpital une autre Française, elle s'appelait Victoire. Et c'est bizarre parce que je revois sa silhouette et son nom, je me le rappelle. Et alors, toutes les deux, on apprend qu'il y a un camion qui partira l'après-midi dans la cour pour rapatrier les Françaises. Comment qu'on a fait pour se sortir de l'hôpital? Comment qu'on a fait pour se retrouver dans ce camion? Comment qu'on a voyagé dans ce camion? Je sais que c'était terrible parce que on était assis sur le sol du camion et toutes les trous des routes et tout ça, on les ressentait. Et puis, alors, on est arrivé dans un endroit. Il y avait un château. On a dormi dans ce château. Et puis, le lendemain matin, on est reparti avec d'autres camions pour arriver à Theresienstadt, où on a pris un avion.
Là, vous êtes passé à Paris par le Lutetia, puis vous êtes rentré chez vous, vous avez retrouvé votre mère et des sœurs.
Avant d'aller à l'hôtel Lutetia, on a atterri à Lyon. À Lyon, je suis dans un centre d'accueil, en très très mauvais état. Il faut répondre à des questions, il y a encore des questions, il y a toujours des questions. Et puis après, ben moi je veux aller à l'hôpital. Ma famille, il n'y en a plus. On a été dénoncés, ils ont été arrêtés. Birkenau est tellement grand que... Mais ça, je ne le savais pas moi-même. Il y a des personnes qui retrouvaient leur mère qui était à l'autre bout du Birkenau. Donc, pour moi, je peux pas retrouver ma famille, je n'en ai plus, et je veux aller à l'hôpital, et j'attends qu'on m'emmène à l'hôpital. Alors, les gens venaient nous voir avec des photos, avec certains donnaient de l'argent, d'autres des friandises. Et je suis assise à attendre d'aller à l'hôpital et il y a une dame qui voulait montrer une photo ou qui voulait peut-être me donner quelque chose. Alors que les autres passent, elle s'arrête. Elle me regarde et elle me reconnaît comme étant de la famille. Mais t'es une fille charcasquée, toi. Ben oui, je me rappelais mon nom quand même. Hein. Eh bien, elle m'apprend que ma mère et mes sœurs sont vivantes et même, elles ont récupéré l'appartement que nous avions. Parce que maintenant, on est propriétaire de son appartement. Mais à mon époque, non, il y avait un propriétaire, il avait tout un immeuble et son gagne-pain, c'était de louer les appartements. Quand un juif était arrêté, tout l'appartement était vidé. Il paraîtrait que c'était la Gestapo. Est-ce que c'est les Gestapo? Est-ce que ce sont les voisins? En tous les cas, il reste rien dans l'appartement. Eh ben, le propriétaire a un appartement vide, il le loue à qui le veut. Et quand mes sœurs sont arrivées, Paris est libéré, elles viennent voir ce qui se passe, elles vont dans l'appartement, elles rentrent dans l'immeuble. À l'époque, il n'y avait pas de code. Et la concierge les arrête. Ah non, vous n'avez plus le droit, votre appartement n'est plus à vous. Et elle leur apprend que l'appartement est occupé par des collaborateurs. Ils ont fait de notre appartement un bureau d'embauche, ça s'appelait les STO, travailleurs obligatoires. Ils envoyaient les jeunes travailler en Allemagne. Ils ont été arrêtés et puis on a récupéré l'appartement. Moi, quand je suis arrivée, j'avais la chance de retrouver ma famille qui avait retrouvé notre appartement. C'était pas l'immeuble, mais c'était le lieu, les pièces, elles étaient là.
Vous faisiez 26 kilos à votre retour.
Oui.
Concierge, vous
c'est
a pris
beau,
pour votre frère.
J'étais un squelette, c'est ça. Je sais, si je me pèse, qu'il y a 26 kilos d'os. Un squelette. Alors, je ne m'étais jamais vue. Quand on était dans le camp, on voyait les autres. Mais moi, j'ai toujours l'image d'une fille qui était forte, qui était grosse. Alors bon, ben, j'ai maigri, c'est sûr, mais il doit en rester quand même beaucoup plus que les autres. Hein. Et je me suis fait peur. Hein.
Là, vous êtes obsédé par la nourriture à ce moment-là, et ça peut évidemment se comprendre, et vous dites que vous avez traversé tout de même des phases de dépression.
Je ne l'ai pas eu tout de suite, la dépression. La dépression, moi, je l'ai eu après, parce que comme c'est vrai, je mangeais, mes frangines, elles jetaient des elles se servaient, elles vous en voulaient plus, et hop, ça va à la poubelle. Alors, les quelques premiers jours, je faisais un scandale, on n'a pas le droit de jeter de la nourriture, vous n'avez pas le droit. Et puis à la fin, Ginette, toi tu fais ce que tu veux, et nous on fera ce qu'on voudra. Et elles ont continué à acheter. Et moi, la nuit, je me levais pour... J'avais déjà beaucoup mangé, et ben j'allais récupérer ce qu'elles avaient jeté à la poubelle. Et ça fait que j'ai doublé mon poids en un mois, et en un an, j'étais devenue une bonbonne. Et c'est là que... Alors, à l'époque, on disait pas dépression. J'avais mauvais moral.
Comment vous en êtes sorti de cet état? Est-ce que vous avez consulté des gens?
Je ne me souviens pas. Mes sœurs avaient trouvé un médecin qui était certainement généraliste, mais psychologue aussi. Et c'était lui qui me soignait. Mes sœurs, elles étaient commerçantes, donc il n'y avait pas de sécurité sociale pour les commerçants. Je ne savais pas que les déportés avait le droit à des soins gratuits, parce que j'ai pas pris une filière normale. Donc, moi, je sais pas, ce docteur me soigne, assez cher la visite, pas remboursé. À un moment donné, je me sens mieux et j'arrête. Et je viens plus, c'est fini, je me sens bien, merci de vos soins. Maintenant, je suis bien et j'ai arrêté de Et puis, c'est là que, écoute, t'as raison, tu veux plus venir me voir, tu viens plus me voir. Mais par contre, moi, je te conseille, ne fais pas ce que tu veux faire, travailler dans un bureau. Trouve-toi une place de vendeuse. Ça sera beaucoup mieux pour toi. Tu parleras aux clients, tu seras obligé de sourire, tu seras obligé de blaguer. Moi, je te conseille. Et quand j'ai dit que le docteur m'avait dit ça, j'ai une sœur qui avait récupéré la place des aînés qui étaient sur les marchés. Eh bien, puisque tu veux être vendeuse, eh bien, si tu veux, tu es vendeuse à ton compte. Moi, je te laisse la place de marché, je te laisse la marchandise, et puis tu me paieras petit à petit, et puis moi, je me reviens à Avignon. C'était pas un sacrifice qu'elle faisait parce que à Avignon, elle avait son amoureux qui était là-bas. Mais n'empêche que si elle avait pas fait ça, ben j'aurais été vendeuse dans un magasin.
Alors, en parlant d'amoureux, quelques années après votre retour, vous rencontrez votre futur mari.
Oh, beaucoup, 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 beaucoup. Hein.
Et vous n'avez jamais raconté votre histoire à votre mari, et lui non plus, vous n'en parliez pas.
Il savait que j'avais été déportée, lui-même avait été prisonnier de guerre. Simplement, ce que je savais, c'est qu'il savait faire cuire le riz, parce que comme il a été prisonnier de guerre, il était avec des Chinois, et il a appris à faire cuire le riz. Voilà, c'est la seule chose. Et puis, j'étais pas curieuse non plus pour lui demander où tu étais. Je sais qu'il avait été prisonnier de guerre. Il a fait 5 ans, hein. 5 ans prisonnier de guerre. Mais je lui ai jamais raconté, il m'a jamais parlé de ce qu'il faisait. La seule chose, c'est que les prisonniers de guerre, souvent, allaient dans les fermes pour remplacer les hommes qui étaient prisonniers de guerre. Donc, moi, j'ai un beau-frère qui a fait ça, mais il n'avait pas dit qu'il était juif. Hein. Donc, mon mari dit qu'il est juif, donc il va être traité très, très bien, comme un prisonnier de guerre, mais il n'aura pas le droit d'aller dans les fermes. Et lui, il n'a pas le droit de recevoir de colis, parce que si on envoie des colis, on va voir qu'il est juif. Donc, il ne recevait pas de colis. Mais par contre, les prisonniers entre eux étaient solidaires.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le chant des marais qu'on a entendu là chanté par Rosalie Dubois?
Ah ben, alors, c'est assez bizarre d'ailleurs. On est à peine arrivé dans la baraque que les anciennes nous ont chanté le chant des marais. Ce chant, quand je l'entends chanter par les déportés, il y a vraiment de quoi vous tirer les larmes, si vous en avez. Mais par contre, quand je vois les soldats qui chantent le chant des marais comme s'ils chantaient au clair de la lune, je les giflerais, je les secourais, me mettais de la passion. Et ils chantent ça comme... Ils réalisent même pas ce qu'ils chantent. Alors que ce chant des marais décrit très très bien ce que l'on faisait dans les camps. Et ce chant des marais, on dit que c'est le chant des déportés, on se l'est approprié, mais en fin de compte, il paraît que c'est les premiers prisonniers de guerre allemands qui ont été arrêtés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique de Hitler, et c'est eux qui ont écrit ce chant.
Et voici votre deuxième choix musical.
Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande de Richard le Noir. À la Bastille, on aime bien les Ivoiriens. Elle est si bonne et si gentille, on aime bien les Ivoiriens. À la Bastille.
1912, Nini Potchien d'Aristide Bruant.
Ah, ça, c'est mon répertoire. Vous savez, tout partout où je vais, j'ai deux chansons. À la Bastille, alors, c'est vrai que ça met de l'ambiance. Qui est-ce qui ne connaît pas et tout le monde chante avec. Et puis, alors, l'autre, c'est Un mauvais garçon. Ne m'en demandez pas plus parce que je ne me rappelle d'aucune chanson entièrement.
Bon, alors, je ne vous en demande pas plus.
Alors, mais... vous ne m'en mettez pas.
Et vous ne connaissez toujours plus les chansons de votre fils Richard Kolinka?
Ah non, alors ça...
Non, contrairement au rabbin Chaim Korsia qui les connaît par cœur et qui vous les chante au téléphone.
Alors ça, j'ai honte de dire que je connais... Sauf, il y en a une, celle que j'aime bien, c'est « J'ai rêvé d'un autre monde ». Parce qu'elle est vraiment d'actualité. Mais c'est pas pour ça que je la connais entièrement, hein.
Thank you.
C'est le groupe Téléphone, pour ceux qui n'auraient pas eu la référence tout de suite. Ginette Kolinka, vous avez gardé le silence pendant plus de 40 ans ou 50 ans.
Et vous, largement, ouais.
Vous vous disiez que, en fait, raconter votre histoire à votre famille, ce serait comme les tuer. Et vous aviez aussi peur d'embêter les gens.
Exactement. Ils savent qu'à part mon petit frère, mon père et mon petit frère, on sait comment ils sont morts. Mais les autres, moi-même, je ne sais pas comment ils sont morts. Alors, on nous battait, on nous frappait, jusqu'à ce que l'autre soit évanoui ou morte sous le joug des capots. Eh bien, peut-être que ma sœur aînée, peut-être que mes oncles et cousins sont morts comme ça. Je ne sais pas, je ne connais pas. On ne sait rien.
Est-ce que vous êtes hanté par des images? Est-ce que vous faites des cauchemars?
Alors, je ne pense pas avoir fait de cauchemars. Et peut-être que j'en ai fait. En tous les cas, maintenant, ça c'est sûr. Je ne rêve pas de ça. Il faut dire que je parle beaucoup. Hein. Peut-être que c'est pour ça aussi.
Il y a quelque chose chez vous de très beau, c'est que vous prenez la tolérance depuis toujours sans jamais passer par l'amertume. Vous faites une vraie différence entre les nazis et les Allemands. Vous dites, si vous connaissez quelqu'un qui a fait une vacherie, qui a fait quelque chose de mal, c'est d'abord une personne. Elle est musulmane, elle est juive, elle est autre chose. C'est d'abord une personne. Vous dites aussi, il ne faut pas être obsédé parce que sinon vous allez voir des antisémites partout. Moi, ce n'est pas le cas. Et vous dites surtout ceci, Ginette Kolinka, je ne veux pas que tout le monde s'aime, je veux que tout le monde s'accepte. Ça, c'est la sagesse suprême.
Oui. Ben oui, mais oui, mais c'est faisable. Mais c'est vrai que la question de juif, vous êtes juive, une fois j'ai une amie, on la bouscule, c'est parce que je suis juive. C'est ridicule. Pourquoi ça? Quand mon fils avait des mauvaises notes à l'école, j'ai pas dit comme certaines, si c'était appelé Dupont ou Durand, il aurait pas eu cette note-là. Non, il travaille mal, et puis, je suis pas obsédée parce que je suis juive. Je le suis, et puis j'accepte de l'être. Hein.
Mais vous semblez accepter les choses. C'est ça qui frappe quand on vous rencontre, quand on vous lit. C'est que vous acceptez les choses, le destin, le...
Eh ben oui. Si j'acceptais pas, il y a longtemps que j'aurais perdu, que je serais parti en fumée, déjà, peut-être. Et si en revenant, ben, je sais pas où je serais. Je n'ai pas encore réfléchi la façon dont je vais mourir. Mais j'ai le temps.
Oui, vous avez le temps, vous êtes jeune. Est-ce que, puisqu'on vous parle toujours des camps et de la Shoah, est-ce qu'il y a des films ou des livres qui n'ont rien à voir et que vous appréciez et que vous aimeriez recommander aux auditeurs?
Je ne saurais pas dire. En tout cas, qu'ils lisent. Si le livre ne leur plaît pas, ben, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que quelquefois, on a du mal à démarrer, puis... l'auteur, il a écrit, ça vaut le coup de le regarder. Alors ça, je conseille, je donne pas de conseils. Hein. Je suis pas parfaite pour pouvoir donner des conseils aux autres. Mais ce que je leur conseille, oui, c'est d'accepter l'autre. Ça, je crie, je hurle. Que vous soyez juive, musulmane, chrétienne, quelle importance. On est des êtres humains, c'est tout. Et on devrait s'accorder.
Merci beaucoup.
Pas de quoi.
Je rappelle que le livre Ginette Kolinka contre la haine, illustré par Katel Muller, est paru aux éditions de La Sirène. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Anaïs Boucher et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Thomas Robine.